Robinson Crusoe, adaptation d'après Daniel Defoe, troisième partie. Mais il me fut aussi impossible de résister à leur offre qu'il me l'avait été autrefois de réprimer les désirs extravagants qui firent échouer tous les beaux conseils de mon père. En un mot, je leur dis que je partirais de tout mon cœur s'ils voulaient bien se charger du soin de ma plantation pendant mon absence et en disposer selon que je l'aurais ordonné si je venais à périr. Tous me le promirent et s'y obligèrent par contrat. Je fis un testament en forme, par lequel je disposais de ma plantation et de mes effets en cas de mort, instituant pour mon légataire universel le capitaine de vaisseau qui m'avait sauvé la vie, mais l'obligeant à disposer de mon avoir suivant cette clause, c'est-à-dire qu'il garderait pour lui la moitié de mes acquisitions et ferait embarquer l'autre moitié pour l'Angleterre. Enfin, je pris toutes les précautions imaginables pour mettre mes biens en sûreté et pourvoir à l'entretien de ma plantation. Le vaisseau étant équipé, la cargaison embarquée et toutes choses arrangées comme nous en étions convenus mes associés et moi, j'allais à bord le 1er septembre 1656, qui était le même jour que je m'étais embarqué à Hull, 8 ans auparavant, pour devenir rebelle aux ordres de mes parents. Notre vaisseau était d'environ 120 tonneaux. Il portait 6 canons et 14 hommes, en y comprenant le maître, son garçon et moi. Nous ne l'avions chargé d'autres marchandises que de quincailleries propres à notre commerce, telles que des petites pièces de glace, des coquilles, surtout des petits miroirs, des couteaux, des haches et quelques matelas. Le même jour que j'allais à bord, nous mîmes à la voile et nous nous dirigeâmes vers le nord, le long de la côte, dans le dessein de tourner vers celle d'Afrique, que nous serions parvenus au 10e ou 11e degré de latitude septentrionale. Nous eûmes un fort bon temps, sinon qu'il faisait excessivement chaud. Arrivés à la hauteur du cap Saint-Martin, nous nous éloignâmes en mer, et, perdant bientôt la terre de vue, nous mîmes le cap de même que si nous eussions voulu aller à l'île de Ferdinand de Noronha, mais nous la laissâmes à l'est, ainsi que les îles adjacentes, continuant notre route vers le nord-est quart nord, et nous passâmes la ligne après une navigation d'environ 12 jours. Nous étions, suivant notre dernière estime, sous le 7e degré et 22 minutes de latitude septentrionale, lorsqu'il s'éleva un violent ouragan qui nous désorienta entièrement. Il commença vers le sud-est, devint peu après nord-ouest, puis, se fixant au nord-est, il se déchaîna d'une manière si terrible que nous ne fîmes autre chose pendant 12 jours de suite que dériver, forcés d'obéir aux ordres du destin et à la fureur des vents. Cet orage, outre la frayeur qui en est toujours inséparable, nous coûta 3 hommes. L'un mourut de la fièvre ardente, et les 2 autres, dont le mousse, tombèrent dans la mer. Le vent s'étant un peu abattu sur la fin du 12e jour, le maître fit une estime le mieux qu'il put, et trouva qu'il était aux environs du 11e degré de latitude septentrionale, mais qu'il y avait une différence de 22 degrés de longitude à l'ouest du cap Saint-Augustin, de sorte que nous étions jetés vers la côte de la Guyane, partie septentrionale du Brésil, au-delà de la rivière des Amazones, non loin de l'Orénoque. Le vaisseau avait été fort tourmenté, et faisait beaucoup d'eau. Le maître me consulta, pour savoir quelle route nous prendrions, et il opina pour regagner la partie orientale d'où nous étions partis. J'étais d'un avis tout contraire, et après avoir examiné ensemble une carte marine de l'Amérique, nous conclûmes qu'il n'y avait aucune terre habitée où nous puissions avoir du secours, et qui fût plus proche de nous que l'archipel des Caraïbes. C'est pourquoi nous résolûmes de faire voile vers la Barbade, nous espérions qu'en prenant le large, pour éviter le golfe du Mexique, nous pourrions aisément arriver en 15 jours, tandis qu'il nous était impossible de continuer notre voyage à la côte d'Afrique sans quelque assistance, tant pour le vaisseau que pour nous-mêmes. Dans ce dessein, nous changeâmes de direction, et nous mîmes le cap au nord car à l'ouest, afin de pouvoir atteindre quelques-unes des îles habitées par les Anglais, où j'avais l'espérance de recevoir du secours. Mais notre voyage devait se terminer autrement, car étant dans la latitude du 12e degré et 18 minutes, nous fûmes assaillis par une seconde tempête, qui nous emporta avec la même impétuosité que la première vers l'ouest, et nous écarta si loin de toute société humaine que nous n'avions d'autre alternative que de périr dans les flots ou d'être dévorés par les sauvages, et aucune espérance de revoir jamais notre pays. Dans cette extrémité, le vent soufflait toujours avec violence, et le jour commençait à paraître, lorsque l'un de nos gens s'écria « Terre !» À peine fûmes-nous sortis de la cabane pour voir ce que c'était, et dans quelle région du monde nous nous trouvions, que le vaisseau donna contre un banc de sable. Son mouvement cessa tout à coup, et les vagues y entrèrent avec tant de précipitation que nous nous attendîmes à périr sur l'heure. Nous nous serrions contre les bords du bâtiment pour nous abriter contre la violence des vagues. Le temps parut enfin devenir moins chargé, et nous reprîmes courage. mais le vaisseau était enfoncé trop en avant dans le sable pour que nous puissions espérer de l'en dégager, et notre situation était toujours aussi déplorable, car il ne nous restait plus qu'à voir si nous pourrions descendre à terre, au risque d'y périr de faim ou d'y être dévorés. Un peu avant la tempête, nous avions un bateau qui suivait notre arrière. Mais d'abord, il s'était fracassé à force de heurter notre gouvernail. Ensuite, il avait coulé bas ou dérivé ça et là par la mer, en sorte qu'il ne nous restait plus d'espérance de ce côté-là. Nous avions bien encore une chaloupe à bord, mais nous ne savions comment la mettre à la mer. Cependant, il n'y avait plus de temps à perdre, car nous croyions à tout moment que le vaisseau allait se briser, et quelques-uns disaient qu'il était déjà entamé. Notre pilote prit la chaloupe. Nos gens se mirent à le seconder, et l'on parvint à la descendre à côté du vaisseau. Nous nous mîmes tous dedans, au nombre de 11 personnes, recommandant nos âmes à la miséricorde divine. Bien que l'orage fût moins violent, la mer s'élevait encore à une hauteur considérable. C'est alors que le danger était proche et effroyable. Nous vîmes tous clairement que notre chaloupe ne pourrait résister à la fureur des eaux, et que nous serions infailliblement submergés. Nous n'avions point de voile, et quand bien même nous en aurions eu, nous n'eussions pu nous en servir. Nous nous mîmes à ramer de toutes nos forces, pour gagner la terre, mais avec un visage consterné, comme des malheureux qui allaient au supplice. Aucun de nous ne pouvait ignorer qu'aussitôt que la chaloupe arriverait près de la côte, elle lui essuierait des coups si rudes qu'elle serait bientôt en 1000 pièces. Quoi qu'il en soit, le vent nous poussant vers la terre, nous travaillions à tour de bras pour le seconder et pour hâter notre perte. Nous ne savions nullement de quelle sorte était le rivage, si c'était du roc ou du sable, ni s'il était bas ou élevé. La seule chose qui aurait pu raisonnablement nous donner quelques lueurs d'espérance était de tomber dans quelque baie, dans quelque golfe ou dans l'embouchure d'une rivière, d'y entrer par un coup de hasard et de nous mettre à l'abri du vent, ou peut-être encore de trouver une eau calme. Mais il n'y avait aucune apparence de rien de semblable. Mais bien loin de là, la terre, à mesure que nous nous approchions, nous paraissait encore plus redoutable que la mer. Après avoir ramé, ou plutôt dérivé l'espace d'une lieue et demie, une vague furieuse, semblable à une montagne, s'en vint roulant à notre arrière. C'était nous avertir d'attendre le coup de grâce. En effet, elle fondit sur nous avec tant de furie qu'elle renversa d'un seul coup la chaloupe et nous sépara les uns des autres, aussi bien que du bateau. Dans le moment, nous fûmes tous engloutis. Il n'est pas d'expression qui puisse retracer quelle était la confusion de mes pensées lorsque j'allais au fond de l'eau. Quoique je nageasse fort bien, je ne pus cependant me dégager assez pour respirer, jusqu'à ce que la vague m'ayant poussé, ou plutôt emporté bien avant vers le rivage, elle se brisa et me laissa presque à sec et à demi-mort. Voyant la terre plus proche de moi que je ne l'aurais cru, j'eus assez de présence d'esprit et de force pour me lever sur mes jambes, m'en servir le mieux que je pus et tâcher d'avancer du côté de la terre, avant qu'une autre vague revînt et me saisît. Mais je reconnus bientôt qu'il m'était impossible d'y réussir, car regardant derrière moi, je vis la mer s'avançant sur moi, haute et furieuse, comme un ennemi redoutable avec lequel je ne pouvais me mesurer. Tout ce que j'avais à faire, c'était de retenir mon haleine et de m'élever autant qu'il m'était possible au-dessus de l'eau. De cette manière, je pouvais nager, conserver la liberté de ma respiration et voguer vers le rivage. Ce que je craignais le plus, c'était que le flot, après m'avoir poussé vers la terre en venant, ne me rejeta ensuite dans la mer en s'en retournant. Enfin, une vague monstrueuse me porta vers le rivage.